En coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Madame, Monsieur, bonjour. Dans cette émission, vous allez entendre Anne Baudard, agrégée de philosophie, professeure de chaire supérieure et maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, secrétaire générale de la Société française de philosophie. Elle intervenait lors du colloque organisé par la Fondation Ostade et Laï à l'occasion de la 10e journée de la solidarité humaine, le 10 septembre 2011, sur le thème « Quelle sagesse pour notre temps ?». Anne Baudard a intitulé son intervention « La sagesse, une médecine de l'âme ». L'émission que vous allez écouter se divise en deux moments, deux parties. Dans la première et durant une dizaine de minutes, Anne Baudard développera son propos sur la sagesse comme médecine de l'âme. Dans la seconde, elle répond à quelques questions posées par le journaliste Jacques Pogam.
Donc en 10 minutes, juste en ouverture, j'avais l'intention, mais je vais le faire très 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 rapidement, de comparer en quelques secondes, là, cet après-midi, le poète et le philosophe vu par Platon. Au terme de la République, Platon, en effet, revient en une forme d'ultime synthèse sur le statut du poète et de la poésie. Et en termes très nets, il accuse le poète d'être un menteur, le poète imitateur, d'être un menteur, ce que reprendra Nietzsche au XIXe siècle comme thème. Pourquoi le poète est-il un menteur ? Parce qu'il trompe ceux qui le lisent, prenons l'exemple de la poésie imitative tragique et comique, il fait prendre le faux, l'erroné, le déguisé pour le réel et la vérité, et il incite, et c'est là mon objet en lien avec le thème qui est le mien sur la médecine de l'âme, il incite surtout à la culture du pathos, le pathos étant ce qui affecte l'âme ou le corps, en l'occurrence ici ce qui nous intéressera, ce qui affecte l'âme, et ce que l'on éprouve, les états d'âme, nos affects, etc. Et le poète incite à la culture du pathos, au développement de ce dernier, et lui donne, à certains égards, une nourriture sans cesse renouvelée. Le poète, on ne peut pas le lui reprocher, connaît l'âme humaine, et précisément se joue de cette connaissance, et il concourt à se complaire, effectivement, dans ce pathos. Le philosophe, lui, dans l'optique platonicienne, a le statut de juge de l'œuvre poétique. Et le philosophe peut juger l'œuvre poétique et décider de sa valeur éducative ou non pour la jeunesse. Il sait, le philosophe, qu'il y a en l'homme un autre versant que le pathos. Il sait que la capacité de résister au pathos est inscrite dans la naturalité humaine. Et très rapidement, l'éducation, dans le cadre platonicien, est une puissance de conversion de l'âme, de transformation radicale du sujet, et l'éducation consiste à concourir, à faire en sorte que le pathos soit dirigé par le logos, c'est-à-dire par la raison. Se connaître soi-même, il en a été beaucoup question ce matin, c'est d'abord, dans le cadre platonicien, j'allais dire, de cette réflexion sur la poésie, se diriger soi-même. La science entraîne nécessairement, sans hiatus aucun, la maîtrise de soi. Elle est avant tout, la science, liée à un art, du prendre soin de soi-même, pas au sens narcissique, pas au sens égocentrique, au sens de trouver en soi ce qui est le principe universel en tous les hommes, c'est-à-dire le principe rationnel. Deuxième remarque, tout petit peu plus longue, les rapports philosophie-médecine de l'âme. Si l'éducation porte ses fruits, l'individu saura se montrer maître de lui. Je vous prie de m'excuser, Pierre, de parler de maîtrise de soi. Maître de ses affects et apte, effectivement, à la vie rationnelle. Dans le cas contraire, il demeurera victime pour sa vie entière et connaîtra la chute et la rechute sans salut possible. Ça, c'est le cadre platonicien de base, pour moi, de fondation. L'ouverture des lettres à Lucilius, de Sénèque, je saute les siècles allègrement, mais en 10 minutes, on me le permettra. L'ouverture des lettres à Lucilius, qui était un objet de discussion et d'échange entre Pierre Hadot et Michel Foucault, rappelle à l'homme, désireux de se connaître ou de connaître une autre condition que celle du tourment, celle de l'aliénation, celle du déséquilibre ou de divers déséquilibres, revendique la propriété de soi. En latin, indicare se sibi, être, se faire le propriétaire de soi, c'est-à-dire se libérer par lui-même de tout ce qui l'entrave. La science de l'âme est la vraie médecine de l'homme. Déjà, Platon l'avait recommandé, notamment toujours dans La République, je n'ai pas le temps de lire le texte, mais en écrivant dans La République 10, notamment, que ce qui permet à l'homme de résister à tout ce qui peut l'accabler, comme le chagrin, les différentes formes d'infortune, c'est la raison qui est en lui. La raison, logos, qui est un nomos, qui est une loi de direction de soi-même. Et Platon, bien avant Freud, on parlait ce matin, quelqu'un avait la nostalgie de Freud qui n'était pas assez venue dans l'ordre des interventions ce matin, mais bien avant Freud, et Freud reprendra ce thème, du point de vue platonicien, il y a en l'homme deux poussées contraires. Une poussée vers la rationalité, une poussée vers l'affect, une poussée vers l'ordre, une poussée vers le désordre. C'est dit en toutes lettres, à la fois dans la République et dans les lois. Et je me permets d'extraire juste de la République 10 ce point où Platon nous dit « Il faut habituer constamment son âme à venir aussi vite que possible guérir ce qui est malade, relever ce qui est tombé et il faut habituer constamment son âme à supprimer les lamentations par l'application de ce remède. » La meilleure conduite à tenir contre les coups de la fortune, c'est effectivement la rationalité, l'exercice de la raison. La raison dont l'homme est doté a, dès les origines de la philosophie socratico-platonicienne, des vertus thérapeutiques. On retrouve cela, je parlais de Sénèque tout à l'heure, Sénèque premier siècle, on retrouve cela de façon presque synthétique chez Cicéron dans les Tusculanes, où Cicéron appelle la philosophie la medicina animi, la médecine de l'âme. Donc c'est toute une tradition qui s'élabore à partir de Socrate et de Platon, et qui voit dans la philosophie l'outil dont l'homme dispose pour se guérir de ce dont il souffre. Il peut souffrir d'éléments extérieurs à lui qui l'accablent, qui l'affectent, qui l'affligent. Il peut souffrir d'éléments intérieurs à lui qui aussi l'accablent, l'affectent, et peuvent aussi l'affliger, ou le rendre heureux, ou trop heureux, etc., etc. Les deux maladies les plus dévastatrices, du point de vue cicéronien, ça m'intéresse de comparer, mais en 10 minutes, ce n'est pas véritablement une comparaison, mais les deux maux dont l'homme souffrirait le plus, selon Cicéron, c'est le chagrin et le désir, aegritudo et cupiditas. Et seule la médecine de l'âme, philosophie, pourra extraire ces deux maux, c'est-à-dire l'exercice bien conduit de la rationalité ou de la raison humaine. Je pense également au texte des lois, du premier livre des lois et du septième livre des lois platoniciennes, c'est-à-dire la fin du corpus platonicien, où l'homme est assimilé à une marionnette avec des tendons et des ficelles qui le tirent dans un sens, dans deux sens contraires très souvent, et que la difficulté est pour lui, effectivement, d'avancer dans une direction bien déterminée. Ce qui veut dire que le thème de la médecine de l'âme est un thème qui va traverser les siècles de moins 4 avant notre ère, jusqu'à, je dirais, sans doute jusqu'à la Renaissance, moi j'en sais rien, en tout cas dans toute la philosophie hellénistique et la philosophie impériale. Il faut conduire sa vie du mieux que l'on peut avec les instruments que les dieux ont mis en nous. C'est les dieux, du point de vue du texte platonicien, qui ont mis en nous, en effet, la raison, la volonté et la puissance de courage, qui consiste effectivement à se dominer soi-même. Et dans les courants post-socratico-platoniciens, que sont les cyniques, même les sceptiques, que sont les stoïciens, dont nous avons parlé à plusieurs reprises ce matin, les épicuriens, on retrouvera toujours ce thème décliné dans des philosophies très différentes. Si la philosophie prend donc le visage d'une médecine, d'une science et d'un art conjugués sans qu'il y ait hiatus entre cette science et cet art, de conserver la santé ou de la recouvrer, si elle s'est trouvée perdue ou oubliée. Depuis Pythagore, je dirais que ce thème, c'est-à-dire du moins 6 avant notre ère, ce thème traverse.
Moins 2, Anne.
Oui, moi je suis à moins 6 avant Jésus-Christ. Donc, vous avez, comme s'il y avait en l'homme une tension tragique vers la sagesse, inaccessible, ça c'est un point qui sera un objet de débat, je pense, inaccessible aux hommes que nous sommes, mais qui est un pôle avéré de leur amélioration en matière spéculative et éthique, sans que l'une soit séparée ou séparable de l'autre. J'ai le temps de citer Épicure, la lettre à Ménécée. Dans la lettre à Ménécée, un passage extraordinairement beau que j'ai envie de vous lire, où effectivement Épicure nous dit « Fais descendre au fond de ton cœur la philosophie, fonde l'expérience de ton progrès, non sur la chose dite ou écrite, mais sur la fermeté de l'âme et la réduction de tes désirs. Vérifie tes paroles par les actes. La philosophie enseigne à vivre, non à parler. Elle exige que chacun suive la loi qu'il s'est donnée, que la vie ne soit pas discordante au langage ou discordante en elle-même, qu'il y ait entre tous les actes une unité de couleur. Voilà le principal office de la sagesse. La visée essentielle de la sagesse, qu'elle soit déclinée par Socrate, Platon, tous les courants post-socratiques que j'ai énumérés, consiste à essayer d'instaurer en soi une harmonie, un équilibre, un unisson entre le dedans, le dehors. Vous disiez ça en arabe tout à l'heure pour, dans un autre peut-être contexte. Le dedans, le dehors, l'action, les paroles et l'intellection. Question finale, et je m'arrête, je vous promets. Le sage est-il un dieu parmi les hommes? C'est ce à quoi aspirait Épicure. Devient un dieu. Épictète dit la même chose. Par ses seules forces. Nous sommes dans le cadre païen, nous sommes dans le cadre grec, et les forces de l'homme sont les siennes, sans qu'il y ait d'intervention, effectivement, extérieure à lui.
Merci, Anne. Vous disiez donc que l'objectif à travers tout ça, c'est la découverte d'une certaine harmonie, mais concrètement, quels sont, quand on reprend cette grande tradition donc, de l'antiquité gréco-romaine, si on devait faire ressortir une ou deux choses concernant cette harmonie, le contenu de cette harmonie, qu'est-ce que vous mettriez en avant? Qu'est-ce qui fait cette harmonie, en fait, dans cette démarche, quand on prend les plus grands?
Alors, quand on prend les plus grands, ou le plus grand, enfin, selon moi, qui serait Platon, en l'occurrence, là, dans cette chaîne d'histoire que j'ai vraiment réduite au minimum, c'est l'harmonie, ça consiste effectivement à ne pas inverser les pôles. Ça peut se discuter, c'est un objet de discussion, oui. Je suis bien d'accord. Mais enfin, dans le cadre platonicien, l'harmonie, c'est que la raison domine, que la raison de l'homme soit maîtresse, effectivement, des affects, des tendances désirantes, des tendances affectives les plus, au sens le plus large du terme. L'harmonie, c'est l'unité, si vous voulez, de soi. Donc ça, c'est à la fois psychologique, c'est à la fois éthique, c'est à la fois politique, car si je suis harmonieux, si les individus connaissent une harmonie, la cité composée de ces individus-là connaîtra une harmonie. Donc vous avez, dans le cadre platonicien, j'en ai pas parlé du tout, mais un lien entre l'éthique et le politique, bien entendu, et cette harmonie-là, elle est individuelle et collective.
Il y a toujours les deux aspects.
Il y a toujours les deux aspects, privé-public, bien entendu.
Vous avez cité Michel Foucault.
Oui.
Je suis content que vous ayez cité Michel Foucault, parce que est-ce que ce n'est pas à lui qu'en grande partie, nous devons ce regain de la sagesse, au fond.
C'était l'objet d'un exposé, sans doute pas en 10 minutes, mais c'est vrai, c'était mon objet d'exposé, de montrer que le travail de Michel Foucault, enfin le dernier Michel Foucault, c'est-à-dire celui des textes, le volume 3 de l'histoire de la sexualité, le souci de soi et le souci des autres, sont des textes qui, en effet, notamment le souci de soi, je pense à ce texte très précis, j'ai eu l'occasion de faire une conférence justement chez Anne Fagot-Largeau, où je mettais en exergue un article de Pierre Hadot, où Pierre Hadot racontait qu'à la fin de sa vie, Michel Foucault lui avait téléphoné, mais de façon quasi désespérée, pour mettre au point la traduction de l'ouverture des lettres à Lucilius de Sénèque. C'est-à-dire, c'est quelque chose, je veux dire, au moment de peu avant sa mort. Il voulait savoir comment il fallait interpréter le Windy Carré Tibi dans le cadre de l'ouverture des lettres. Comment fallait-il l'interpréter, ce que j'ai traduit tout à l'heure, par « sois le propriétaire de toi-même ». Et Hadot, donc, a répondu à cet appel, désespéré et serein en même temps, mais les deux, c'est-à-dire puisque la mort était proche. Et Hadot, ils ont eu une discussion et un échange, et j'ai fait état de cette discussion et de cet échange, où Foucault et Hadot ont eu l'impression de se comprendre jusqu'à un certain point. Jamais Foucault ne parle de sagesse. Bon, il parle de l'esthétique de l'existence. La jouissance de soi est vue en termes plus individualistes, je dirais, que chez Pierre Hadot, qui reste quelqu'un de très connaisseur de l'Antiquité, où dans l'Antiquité, l'individu véritablement n'existe pas.
Alors, chez Foucault, si je ne me trompe, il y a deux aspects dans cette esthétique. Donc, il y a l'aspect à la fois les rapports de l'individuel et du collectif, il y a ça,
oui.
Et puis il y a la mort.
Et la mort.
La mort qui est prenante. Oui. Alors, cette année, au théâtre, il y a eu deux petites merveilles. L'une à l'Odéon, qui était Les Pertes d'Eschyle, et l'autre à la Comédie française, c'était Agamemnon, donc Sénèque. Mmh. Et là, on voyait une troisième dimension. Alors, dites-nous si chez Foucault, cette dimension était prenante, c'est-à-dire la dimension des dieux. Parce que Agamemnon ou les Perses, la présence des dieux est permanente, déterminante, y compris chez ceux dont la vie n'a rien à voir avec l'observation de principes élémentaires de sagesse et d'harmonie.
Oui.
Est-ce que chez Foucault, il y avait ça aussi?
Non, je ne le pense pas. Il n'y a pas cet aspect-là. Il y a une quête.
Désespéré un peu?
Un peu, oui, mais ça. Une quête. Une quête quand même. Ce n'est pas une fermeture, une quête.
Ouais.
C'est-à-dire une tension vers, mais sans réponse. C'est d'ailleurs un des points que Pierre Hadot signale comme étant un point différentiel entre sa vision de la sagesse, récupérant les anciens, excusez-moi du verbe qui est très mauvais, trouve autre chose que récupérer, je suis fatiguée, j'y arrive ouais. pas, mais se remettant à la lecture des anciens et leur trouvant une actualité, mais les tirant dans un cadre assez plutôt esthète, enfin dans un cadre esthétique, plus esthète qu'esthétique.
Ce qu'il était viscéralement voilà. d'ailleurs, Foucault.
Ce qu'il était, oui. Ouais. Et la conception de la sagesse là-dedans est infléchie nécessairement et adaptée à la philosophie de Foucault, à sa recherche personnelle, sans que l'arrière-fond divin dont vous parlez soit effectivement aussi prégnant qu'il l'était chez les anciens.
Alors il y a quelque chose qui a pu surprendre certains d'entre nous, moi le premier, c'est que vous mettiez Platon en avant, alors que d'habitude quand on parle de sagesse et qu'on fait allusion à l'héritage gréco-romain, on aurait plutôt tendance à mettre en avant le trio des stoïciens, Épictète, Marc Aurèle, Sénèque. Pourquoi ?
Parce que, excusez-moi de rappeler que Platon écrit au IVe siècle avant notre ère et que...
Les autres héritent.
Il y a un héritage. Ouais. Il y a un héritage, le plus grand de tous, c'est sans doute Socrate, mais qu'on ne connaîtrait pas sans Platon. Et à partir de Socrate et du moment socratique... Vous avez des courants qui vont se constituer, dont le courant stoïcien qui est un courant socratique, le courant cynique qui est un courant socratique, le courant épicurien qui est un courant socratique et le courant sceptique qui est un courant socratique. Bon, nous avons un premier système, une première systématisation universelle du philosophique avec l'œuvre de Platon. C'est vrai que j'ai été chercher dans l'œuvre de Platon les textes qui référaient au thème de la médecine, de la guérison, etc. C'est pas contradictoire, c'est pas ou bien les stoïciens ou bien Platon.
C'était une continuité.
Une continuité, oui, dans la discontinuité.
Parce que vous parliez de cette possibilité pour l'homme de faire face. J'avais sous les yeux là un texte de Marc Aurèle. Les dieux existent et ils ont soin des choses humaines. Et pour que l'homme ne tombe pas dans les mots qui sont des mots véritables, ils lui ont donné, les dieux, ils lui ont donné tous les moyens.
Donc, oui, l'idée que... c'est ça. Les moyens, c'est la raison. Les moyens, c'est la volonté. Les moyens, c'est effectivement des qualités morales qui sont en tout homme et qui doivent être orientées comme il convient. Alors, l'exemple de Marc Aurèle est extrêmement intéressant parce que c'est quelqu'un qui était effrayé comme personne par la mort, oui. qui avait peur de mourir et qui s'est traité lui-même, parce que c'est vrai qu'on est dans une conception du salut par soi-même, nous sommes d'accord, par rapport au christianisme qui est évoqué ce matin, mais il se sauve lui-même, en mettant des années d'ailleurs, en comprenant que la mort, ça nous paraît peut-être... simple, mais lui, ça a été un vrai travail sur lui-même de comprendre que la mort n'était qu'un phénomène naturel au même titre que la mort d'une plante ou d'un animal. Mais ça n'a pas été tout de suite. C'est tout un travail sur soi que Marc Aurèle a fait.
Oui. Donc ça veut dire que ça n'est pas tout à fait inaccessible, quand même, contrairement à ce que vous disiez tout
oui,
à l'heure.
Oui, parce que l'expression « adieu pour les hommes », c'est la définition du sage de beaucoup de philosophes. C'est
pour ça. Et chez Marc Aurèle, il y avait l'illustration de ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'à la fois toujours cette double dimension, la dimension de relation à l'autre et la dimension politique. À la vie, cette phrase quand même extraordinaire. Hein. « Ce qui vient des dieux est respectable en raison de leur excellence, ce qui vient des hommes est digne d'amour en vertu de notre parenté commune. »
Oui, le thème de la philanthropie. Exactement. Un des critères de la sagesse pour Marc Aurèle, bon. C'est la philanthropie.
Et quelqu'un qui était à l'époque où il écrivait ça, l'un des plus grands empereurs de l'histoire de l'humanité, oui. Il faut quand même le faire. Quoi.
Et qui vivait dans une pauvreté exemplaire, monastique, dans une sobriété exemplaire, il faut le souligner, dans une frugalité exemplaire. Et qui avait donc,
il sera peut-être candidat aux prochaines élections présidentielles. Anne Bodard, merci.
Ce colloque « Quelle sagesse pour notre temps » organisé par la Fondation Ostade et Laï s'est tenu sous l'égide de l'Académie des sciences morales et politiques en partenariat avec Le Monde des religions et Canal Académie à la Fondation Simone et Sinaud del Duca à Paris. Sur Canal Académie, vous pouvez entendre l'intégralité des interventions de ce colloque. Elles seront diffusées au fur et à mesure des mois qui viennent. Vous pouvez aussi écouter une émission avec le philosophe Bernard Bourgeois de l'Académie des sciences morales et politiques qui présente ce colloque et surtout qui explique pourquoi notre époque n'est pas, selon lui, propice à trouver la sagesse. Voici les coordonnées de la Fondation Ostade et Laï, éthique et solidarité humaine, une fondation reconnue d'utilité publique. Adresse postale 59 avenue Victor Hugo, 75 016 Paris. Téléphone 01 47 27 14 89. Adresse courriel info@fondationostadelaï.fr. Et le site internet à consulter www.fondationostadelaï.fr.